affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean Anguera, membre de la section sculpture, élu en 2013 au fauteuil de François Staly. Bonjour Jean Anguera.
Bonjour Lydia.
Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. J'ai suivi les étapes de votre travail et vous ai accompagné par des textes, parmi d'autres critiques qui vous sont fidèles. C'est d'ailleurs ce qui caractérise autant l'homme que l'artiste, la fidélité que vous suscitez et que vous rendez et partagez. J'ajoute que cela est la conséquence de la dimension humaniste de votre travail, votre regard sur ce qui vous entoure, la perception du monde. Un monde qui est en instance de métamorphose. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas suffisamment votre sculpture, je fais une présentation rapide de votre art, sculpté, dessiné, et ce sera d'ailleurs le propos de notre entretien. Donc des paysages anthropomorphes, des personnages qui émergent de plaines, de montagnes, dont les formes féminines, le plus souvent, épousent les contours de ce qui semble être des collines. Cette métonymie corporelle se traduit par une apparence pétrifiée de l'enveloppe. Vous travaillez la résine polyester depuis 1981 à partir d'une matrice en argile, mais nous y reviendrons. Parlons en ouverture de votre actualité. Une exposition à Tarbes, dans le lieu dit Le Carmel, visible tout l'été jusqu'au 1er septembre. Quelle en a été la genèse ? Que présentez-vous ? S'agit-il d'une présentation de vos œuvres récentes ou bien d'un ensemble plus anthologique ? Et puis vous nous direz si ce lieu, je crois qu'il est un lieu patrimonial, induit le choix des œuvres que vous avez faites.
Le Carmel, c'est un lieu, une espèce de grande, c'est une grande pièce, c'est la chapelle en fait de cet ancien couvent qui... dont il reste l'essentiel des bâtiments. La chapelle est utilisée pour des expositions. La chose est, je crois, relativement récente. Et il y a des aménagements qui sont encore en train de se faire, c'est-à-dire des projets qui vont modifier sans doute l'espace qui va servir aux expositions. En tout cas, c'est une grande chapelle blanche, assez haute. Et c'est un lieu, je trouve, assez fort, assez significatif, dans lequel il fallait vraiment réfléchir à une exposition, réfléchir à un sens. Et ça ne pouvait pas être une simple accumulation de sculptures. Enfin, de toute façon, nous avons fait, Lydia, ensemble, plusieurs expositions. Et vous savez à quel point vous avez organisé ces expositions. Et vous savez que les sculptures, ce sont des objets assez difficiles, assez signifiants, et qui joue par rapport à l'espace, et qui demande toujours une mise en scène et un travail très particulier de mise en place. Nous avons réuni, alors je dis nous parce que j'associe tout de suite Laure qui travaille avec moi,
votre épouse.
Mon épouse. Nous travaillons ensemble depuis un peu plus de 10 ans, et je dois dire que nous partageons le même engagement. Et ça, c'est essentiel. Nous sommes absolument, intimement d'accord dans ce qui se fait. Très souvent, c'est Laure, d'ailleurs, qui réfléchit plus spécifiquement à la mise en place des œuvres. Je suis une sorte d'accompagnateur dans ces cas-là.
Moi, je dirais peut-être une complicité, une osmose.
Oui, vraiment. Oui, c'est ça. C'est...
Moi qui connais bien comment vous travaillez tous les deux, c'est vrai qu'il y a une complémentarité qui paraît évidente quand on vous voit travailler, sans même vous dire ce que l'autre doit faire. Il y a une réceptivité immédiate au niveau du regard, au niveau du geste, et vraiment un travail presque à quatre mains, à deux esprits, non ?
Oui, nous sommes habitués à regarder dans la même direction et à, en quelque sorte, veiller ensemble à ce que les œuvres suivent toujours cette espèce de ligne qui s'est tracée progressivement, qui s'est tracée presque par elle-même, mais que souvent le thème de mon travail, c'est le thème du chemin, du parcours, puisque le lieu dans notre sculpture est très important. C'est lui qui marque, je dirais, qui a marqué, qui est d'abord entré, je dirais, presque en douceur, et s'est installé dans la sculpture, et il en est devenu presque une sorte de sujet principal. Et le lieu, c'est donc la plaine de la Beauce, puisque nous habitons en bordure de cette plaine. Et nous vivons un paysage extrêmement horizontal, je dirais, où la terre et le ciel se partagent, je dirais, à égalité d'espace. Et les chemins, l'idée du chemin est très fort, parce que c'est à la fois... Vous savez que l'horizon, on ne l'atteint jamais. Mmh. C'est quelque chose qui reste hors de portée. Et pourtant, quand on suit un chemin, on a l'impression de s'approcher. On s'approche et on ne s'approche pas. Il y a quelque chose dans l'espace de la plaine qui est très particulier, qui est une sorte d'assesse, qui est une chose qui... je dirais que toute la sculpture que je fais, toute la représentation de l'homme que je cherche à traduire, cette représentation est entièrement soumis à cet espace de la plaine.
À ce paysage, effectivement, que je connais, donc à Givrennes, aux confins de la Beauce et du Gâtinais. Et ce qui est assez spectaculaire, mais en même temps très impressionnant, c'est que c'est un infini. Quand on est dans cette plaine, y a pas, l'horizon s'éloigne toujours davantage. Donc il y a effectivement cette réceptivité de l'espace. Et la sculpture, c'est effectivement cette relation à l'espace, mais aussi à la lumière. Je pense que la lumière est très présente aussi, très prégnante, dans ces personnages qui vont donc émerger et qui sont entre horizontalité et verticalité. Parce que l'homme de la plaine... C'est vous, quand vous marchez et quand vous allez justement à la découverte de cet horizon, il y a une imprégnation dans le sol, dans la terre, et c'est cette captation spatiale qui doit ensuite peut-être se retrouver dans ces personnages qui vont en émerger.
Je suis sans cesse...
Extérieur et intérieur.
Je suis sans cesse en train d'essayer de décrire... l'horizon, c'est-à-dire cette séparation comme ça, qui est virtuelle et réelle à la fois, cette chose qui se situe, c'est pas une ligne, parce que c'est une ligne très complexe, c'est une ligne parfois diffuse, c'est parfois plus un sentiment qu'une ligne réelle, mais cette ligne se situe, ou cette presque ligne se situe à la hauteur des yeux, et c'est-à-dire que si quel que soit le mouvement, si le sol monte un peu ou descend, si on s'enfonce un petit peu dans le sol, de toute façon, cette ligne est toujours à la hauteur des yeux. C'est-à-dire qu'elle ne... Il y a là comme une espèce de mystère et comme une espèce de magie de l'espace. Et la plaine offre aussi quelque chose pour moi très important, c'est à la fois la grandeur, l'illimité, donc cet horizon, mais cette non-capacité de dire là, les choses s'arrêtent, et la solitude. La solitude est extrêmement importante dans la mesure où, tout d'un coup, on est à la fois présent au paysage, on est présent au monde. Et une fois, et ça a été très, pour moi, ça a été une chose extrêmement marquante, c'est j'étais comme ça sur ces chemins, sur un de ces chemins, pas très loin de l'atelier, hein, je m'éloigne pas beaucoup. Et vraiment, j'avais cette sensation comme ça de ce paysage qui était immense, et j'ai l'impression d'aller comme ça au plus loin, oui, d'aller jusqu'au de m'étendre, d'être une présence vraiment qui n'avait pas de bornes. Et tout d'un coup, j'ai vu qu'au loin il y avait quelqu'un qui marchait. Et d'un seul coup, cette personne a rassemblé le paysage. Tout le paysage est venu se fondre sur lui, s'organiser par rapport à lui, se réduire à lui.
Se resserrer
sur lui.
Oui.
Absolument.
Parce qu'en fait, la planéité, elle invite à ce cheminement. Et ces personnages qui sont les vôtres sont effectivement solitaires. Ils sont vraiment pris d'abord dans leur gang, puisqu'on les voit très bien, c'est très hiératique, c'est une sculpture très hiératique, très intériorisée. Et donc il y a un sentiment de solitude, d'isolement.
Avant de venir pour cet entretien, je me suis dit, il faut que je réfléchisse. Et finalement, le meilleur moyen de réfléchir à la sculpture, c'est d'en faire. Donc j'ai toujours, ou souvent, une sculpture en cours qui reste toujours en attente dans l'atelier. Mmh. Donc je l'ai découverte. Découverte, ça veut dire que j'ai retiré le plastique.
Le plastique
qui la couvrait, et qui la couvre pour la garder humide et pour qu'elle soit toujours travaillable. Parce que ça faisait un certain temps, je dois dire, que je n'avais pas travaillé l'argile et ça me manquait. Donc tous les prétextes étaient bons. Et donc je me suis mis à travailler et très vite les idées, une espèce de repos d'avoir ma saisie, une espèce d'apaisement. Et puis les idées, la pensée, parce que je conçois la sculpture comme quelque chose qui est véritablement sur un seuil. Je vous avais parlé de cette exposition de Tarbes en vous disant que j'avais pensé à un titre qui était un seuil,
l'histoire d'un seuil.
Finalement, ce titre a été oublié, il n'est pas resté, il est resté chez moi.
C'était une invitation pourtant.
Oui, c'était. Et c'était. Il me semblait que ce titre correspondait au sentiment que j'avais de la sculpture. C'est-à-dire cette. Vous en parliez tout à l'heure, ce rapport entre intérieur et extérieur, qui est fondamental. Et je crois qu'il a toujours existé en sculpture de manière forte. On peut parler d'une réalité qui est impalpable, de quelque chose qu'on ne peut pas toucher, et on a tendance à croire que la sculpture, étant donné qu'elle aura toujours représenté le corps, et représente quelque chose de palpable. Eh bien, je crois que c'est une erreur. Ce qu'elle représente, c'est quelque chose d'intérieur, d'inaccessible, mais elle n'a pas d'autre recours que, justement, cette représentation du corps, ce palpable. Mais ça n'est pas son but, ça n'est pas son intention. Elle n'a pas l'intention de s'arrêter au palpable. Elle est orientée entièrement vers quelque chose qui abandonne la matière, qui, dans la matière n'est pas une fin. Elle est simplement le point de départ. Et je pense, de tout temps, Le sculpteur a cherché il a pris le bloc de pierre, il a pris la pièce de bois, mais pour en sortir justement quelque chose qui n'est ni du bois ni de la pierre, pour en sortir quelque chose qui ne se réfère pas à la substance dans laquelle l'œuvre est travaillée. Et pour moi, ça reste absolument vrai, même si mes formes sont plus abstraites, même si mes formes sont... Enfin, vous en parlez mieux que moi de ce qu'elle, du sentiment qu'elle donne, de cette espèce de.
Est-ce qu'il ne s'agit pas de sortir justement une forme invisible, mais que le sculpteur aurait déjà cet instinct, cette intuition de pressentir dans la matière elle-même, c'est-à-dire le bloc de marbre ou effectivement une bille de bois ou un morceau de granit, et de sortir de cette gangue informel, quelque chose qui prend une forme mais qui n'est pas la fin en soi, mais de la rendre visible.
Oui, c'est ça. Le but est quand même de rendre visible quelque chose qui est invisible.
Voilà.
Qui est invisible, qui est un modèle invisible. Cette réalité qui se situe, donc, ce que je disais tout à l'heure, sur ce seuil entre la pensée et puis ce qui est. Ce qui nous arrive, je dirais, entre la pensée et puis la perception, ce que l'on perçoit de la réalité. Mais c'est une réalité dans laquelle on baigne, dans laquelle on est, on ne s'en dégage pas. Et la pensée est là, je dirais, comme dans une espèce de... Elle est comme si elle occupait toute la place, c'est comme si elle était enfouie dans cette réalité. Mmh. Ce sont des choses qui sont d'une certaine manière inexplicables, qui sont peut-être fondamentales, le sentiment d'exister, le sentiment de présence. Mais pour moi, la sculpture a vraiment ce rôle, et je dis pour moi, c'est-à-dire que c'est comme ça que je la conçois, mais je comprends très bien que ça reste personnel. Pour moi, la sculpture, c'est d'être capable de rendre compte de cette... De ce moment précis de rencontre, de dialogue entre ce qui est de la pensée, de ce qui est de nous et de ce qui nous arrive, de ce qui nous contient, je dirais.
Alors j'aimerais reprendre justement ce terme de présence, parce que je pense que la sculpture, effectivement, c'est cette présence qui est différente pour chacun des sculpteurs, quelle que soit l'époque, quelles que soient les écoles. Il y a une présence. Et puis, il y a cette invisibilité, cette visibilité qui est justement à la limite et qui est départagée peut-être par le seuil. Moi, j'aime beaucoup cette image du seuil. C'est une belle métaphore. Le seuil, c'est là où on attend, où on attend quelque chose qu'on peut pressentir ou qu'on ne peut pas du tout imaginer. Mais il y a déjà ce moment d'attente et je pense que quand on... travaille la pierre, l'argile, le marbre qu'on taille, qu'on modèle, il y a ce phénomène de l'attente, une attente fervente et une attente qui se fait aussi, qui s'installe dans un temps malgré tout. C'est ça, cette espèce de dualité entre l'attente et puis cette avancée. Encore une fois, on revient sur l'homme qui marche, qui est sur ce chemin et qui trace son sillon, qui creuse un sillon et qui avance, qui va à la rencontre de quelque chose qui va émerger justement et qui va être la sculpture. Et la sculpture, c'est vraiment alors là le langage. C'est un langage qui est le langage, je dirais, à la fois une entité et chaque sculpteur a son langage. Alors on va parler peut-être maintenant un petit peu de ce processus de création qui est le vôtre, puisque vous avez choisi de modeler. Hein, c'est le modelage, c'est pas la taille. Hein, c'est donc peut-être un geste tout de même différent, je pense. Donc le praticien va peut-être nous en parler. Quand on modèle, ça se passe quand même différemment que quand on doit attaquer avec une certaine brutalité la matière qui est forcément dure. C'est le marbre, c'est le granit, c'est la pierre, la terre, l'argile ou alors la cire. Quand on travaille la cire, il y a un côté doux, il y a peut-être une sorte de caresse. Il y a quelque chose de voluptueux peut-être aussi qui s'établit avec cette matière, mais qu'il faut quand même dompter, qu'il faut apprivoiser, qu'il faut faire sienne. Alors dites-nous un petit peu comment se passe ce processus qui commence par le dessin, je crois. Vous dessinez d'abord le modèle.
J'ai plusieurs façons d'aborder les choses. Il m'arrive de commencer par une toute petite sculpture.
Ah.
Le dessin, pour moi, c'est une manière d'expliquer ce que j'ai fait dans la sculpture. C'est-à-dire qu'il vient, il aurait tendance à venir après.
Il vient après.
Mais il arrive aussi avant, d'une certaine manière, parce que, en réalité, j'ai l'impression de faire toujours la même sculpture, de ne faire qu'une seule sculpture, et donc elle est entrecoupée de dessins, donc le dessin à la fois suit et précède, en quelque sorte. Donc, jamais le dessin ne peut être le modèle. Je ne veux surtout pas devenir l'ouvrier d'une idée qui serait déjà exprimée dans le dessin. La sculpture va faire advenir quelque chose que j'ai...
Mémorisé peut-être aussi.
Oui, dans l'esprit, quelque chose qui est en moi, que j'arrive pas, qui est confus, mais qui est désirable. Il y a comme une forme désirée, mais qui... dont je ne connais pas le dessin, justement. Et c'est par la sculpture que je vais la définir. Donc, si je fais un dessin avant, il m'est arrivé de faire des dessins qui me séduisaient et d'avoir envie d'en faire la sculpture, alors je n'y arrive absolument jamais. Je passe à côté, je fais autre chose, parce que c'est quand même l'idée, la pensée est là, et puis ça se passe, je dirais, sur le tas. Alors, oui. Pour ce qui me concerne, c'est vraiment le terme convient d'une certaine manière, parce que oui, la oui. terre, c'est ça. La terre, c'est de l'accumuler, d'en faire un tas, et de ce tas, de lui donner, de lui donner une forme, en quelque sorte, qui lui permette de ne plus être un tas, d'être justement une présence, d'être une réalité où je me suis installé, où je me suis... j'ai créé une sorte de... La sculpture d'Étienne Martin me viendrait bien en aide quand il appelait ses sculptures demeures. Ce sentiment de demeurer grâce à la sculpture, d'exister d'une certaine manière par la sculpture.
Et puis il y a l'idée aussi du vide et du plein. Hein. Donc on est vide ou alors au contraire on remet de la matière, mais il y a toujours cette alternance entre évider et puis à nouveau remettre de la matière.
Je vous ai proposé, Lydia, de lire à un moment donné des poèmes d'Henri Méchonique et de Joël Bastard. Il ne faudra pas oublier parce que ce que l'on dit là se retrouve tellement dans cette poésie et tellement présente. Ce que l'on dit... moi je me dis que ça devrait concerner la sculpture, le sculpteur
Il faut lire un des poèmes maintenant, je pense, pour parler justement de cette relation au vide, et puis surtout du compagnonnage que vous avez avec certains écrivains et surtout des poètes qui sont très proches de vous. Et vous cheminez, là aussi, c'est un chemin entre poésie et sculpture, et on retrouve l'idée du chemin qui permet de se mieux connaître, un chemin initiatique qui permet aussi d'avancer dans la construction de l'œuvre et de soi-même. De quel poème ?
Alors, je pense d'abord à Henri Méchonique. Méchonique est un homme, parce qu'il est décédé il y a quelques années, c'était un homme assez phénoménal, je dirais. On parlait de présence, c'était un homme qui avait une présence incontestable, et quand il lisait ses poèmes, il était très économe, il n'en lisait jamais beaucoup, mais il y mettait une intensité qui était saisissante, qui était véritablement impressionnante.
Dans l'intonation ?
Dans l'intonation, c'était tout le corps
qui se...
Oui, voilà.
Et bien, le souffle que vous retrouvez, vous, quand vous sculptez, parce qu'il faut de l'énergie, donc il y a un souffle aussi dans la création.
Alors, quand on pense à Henri Méchonique, c'est difficile de lire après lui, en quelque sorte. Et je, encore, et encore, je disparais dans mon regard, en tournant autour des choses. Je comprends ce que je vois, quand ce que je vois me comprend. C'est ainsi que j'ai des yeux plein le corps, et tout mon corps dans mes yeux. Rien, je ne peux rien décrire, puisque dans cette tour, ou dans ce mur, ou cet arbre, c'est mon regard que je vois.
C'est vraiment, en effet, l'idée du regard intérieur et extérieur, et qui permet de circonscrire vraiment à la fois l'œuvre, mais aussi le monde qui vous entoure.
J'ai fait un jour une sorte d'ouvrage, à partir de papier plié, grâce à la rencontre avec un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Éric Coisel, qui avait cette gentillesse, je dirais, ou cette très bonne idée, en tout cas, d'aller voir des poètes et des peintres, des sculpteurs, en l'occurrence, je faisais partie des sculpteurs, pour leur demander d'intervenir sur ces feuilles de papier qu'ils préparaient en direction d'un livre. Mm-hmm. Et alors, ils m'avaient porté des feuilles comme ça et j'avais fait des dessins. Mais c'était pas improvisé, on avait réfléchi, il y avait une réflexion avec Éric Coisel, les choses ne venaient jamais comme ça, sans une sorte de préalable. Mais tout d'un coup, on était au pied du mur, il fallait s'y mettre, et donc j'avais dessiné, j'avais travaillé. Ce que voulait Éric Coisel, c'est que je fasse intervenir la résine polyester sur le papier. Donc les premiers travaux où la résine est venue, en quelque sorte, imprégner le papier, c'est grâce à Éric Coisel qui avait qui voyait ça dans mon travail. Et il a pris le travail qui avait été fait et il l'a porté à Henri Méchonique, et Henri Méchonique a écrit ce que je vais lire. Un chemin sort de mes pieds J'avance, je vais, sur le plus inconnu des chemins, celui qui sort de moi. Et ça, c'est absolument ce que je pense. Ça résume. Je veux dire, il décrit quelque chose qui est extrêmement évident, et qui paraît absolument évident et qui en même temps est stupéfiant. C'est-à-dire, c'est la réalité. Nous fabriquons cette réalité que nous regardons. Nous sommes dans la réalisation de cette réalité. Et c'est quelque chose d'extrêmement émouvant, qui est sans cesse émouvant. Dès que cette pensée nous vient à l'esprit, et elle est celle qui habite profondément Henri Messionnik, eh bien, l'émotion est là. C'est le ressort de l'émotion. Et c'est ce que, moi, j'appelle le seuil, c'est-à-dire... C'est cette situation où nous sommes ni dehors ni dedans, et nous ne savons pas comment cette réalité se découvre à nous.
Et ça me fait penser à quelque chose avec cette évocation d'évocation. On est justement à l'opposé de ce que l'on appelle le réalisme, alors que vous avez une sculpture figurale, on va dire, parce qu'effectivement il y a des personnages, on les identifie parfaitement. Mais ils ont leur propre identité. Donc, on n'est pas du tout dans le réalisme. On est dans un... Je ne sais pas comment dire. Surréel, ça ne serait pas le terme non plus. Mais c'est une figure qui est transposée, qui est à la fois d'un ordre supérieur, je dirais, peut-être.
Moi, ce que je veux atteindre, c'est la réalité, c'est le réel.
Le réel, mais puisque vous dites que ce réel, il n'est pas... la transposition immédiate de ce que vous voyez. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui est en train de basculer et qui est repris différemment. C'est-à-dire que ce n'est pas la transcription littérale, radicale, de ce que nous voyons, puisque ça serait à ce moment-là peut-être ce que rendrait une photo. Hein, peut-être, je ne sais pas, parce que là aussi, c'est encore délicat comme approche, mais il y a un réel. Mais est-ce que ce réel, il n'est pas celui que nous portons en nous ?
Mais oui, voilà. C'est-à-dire que le réel suppose quand même une forme d'engagement. Il n'y a pas... Nous ne sommes pas dehors.
Non, dedans.
Oui, jamais nous ne pouvons avoir un regard extérieur. Nous pouvons avoir notre regard. Et je sais que le projet scientifique est celui d'une sorte de... Il y a aussi ce désir de pouvoir... regarder les choses du dehors et de dire, voilà, les choses sont comme cela. Je les décris avec justesse puisque je ne suis pas impliqué. Mais en réalité, bien sûr, et les scientifiques le savent bien, ils sont entièrement impliqués. Et ça rend à la fois les choses passionnantes et quasi impossibles. Et la sculpture est peut-être impossible. Mais elle est un chemin. Elle est un mouvement. Voilà. C'est impossible, mais c'est un mouvement. C'est une direction c'est ce dessin de cette direction qui est intéressante, mais pas ce qu'elle montre. Cette direction n'est pas aboutie. Ça n'est pas encore réalisé. Ce sera réalisé peut-être. Enfin, je ne sais pas quand, en réalité. En tout cas, si j'utilise l'argile...
C'est la terre.
La terre.
Donc c'est le limon.
Pour moi, c'est extrêmement important.
C'est la matière originelle.
Oui,
c'est la matière de toute vie.
C'est fondamentalement important. Quand Laure a amené à la maison récemment un livre sur la sculpture champenoise du 15e, 16e siècle, un livre absolument admirable, montrant cette sculpture absolument admirable, la sculpture que l'on voit dans des églises de Troyes, la cathédrale de Troyes, ou à Chaours, à Messy. C'est des sculptures d'une sensibilité, d'une finesse. Oui. Elles sont extrêmement figuratives.
Très, très figuratives. Parce qu'il y avait des ateliers, une école vraiment de sculpteurs de terre cuite
Et ah oui, attends
là, c'est de l'argile.
C'est de la pierre.
C'est de la pierre. Parce que moi, je pensais à, dans la région du Mans, par exemple, il y a vraiment eu là des sculpteurs de terre cuite,
Là,
il y a aussi 14e, 15e, 16e. Ouais. Et là, c'est vraiment, bien sûr, une sculpture religieuse, mais avec une minutie dans les détails, au niveau des costumes, au niveau de l'expression des personnages. Et c'est absolument saisissant.
Et justement, je pensais à ça en regardant cette sculpture. Je me disais, oui, c'est extrêmement figuratif. Mmh. C'est très précis dans le dessin des lèvres, dans le dessin des personnages. Et pourtant, ça n'est pas le but. Le but, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas de représenter. Ça doit représenter quelque chose d'un sentiment intérieur. Et on peut s'arrêter évidemment à l'image. Évidemment, on peut, justement, c'est tout le reproche que font les iconoclastes à l'image, c'est qu'on s'arrête à l'image et on la prend pour content, pour elle-même, on la considère pour elle-même. Or, mais non, mais surtout pas. Et sa beauté, c'est sa beauté qui, cet affectif, cette dimension affective qu'elle porte, qui doit nous permettre de cheminer pour aller au-delà d'elle-même. Et là je m'emballe un peu, mais c'est vrai que je pense à quelque chose de cet ordre-là, sans être, bien sûr, sans avoir cette... Il m'est impossible, j'ai beaucoup... Je suis, pour moi, la véritable sculpture, elle doit être figurative. Le visage est essentiel. Regardez l'autre, ce qui se passe... Regarder un visage, rien n'est plus fort que ça. Rien n'est plus intense que le regard. Je vous regarde, Lydia. Rien n'est plus intense qu'un visage.
Je suis tout à fait d'accord. Oui.
Et tout de suite, on sait, quand on regarde un visage, qu'il y a un dedans et qu'il y a un dehors.
Alors, on revient toujours à ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur, cette relation entre le regard, le figuré, le figural. Et effectivement, en vous présentant au début de cet entretien, j'ai parlé d'humanisme et vous dites la nécessité de voir un visage, de regarder et de voir surtout le regard, l'expression, et un terme aussi que vous venez d'évoquer et qui, je pense, est important parce qu'on a du mal aujourd'hui à situer un petit peu ce mot, c'est la beauté. Et la beauté, c'est important. Et la beauté, elle n'est pas uniquement... cette codification, cette norme telle que l'avaient définie les sculpteurs grecs, avec cette harmonie parfaite, la proportion, mais ça peut être autre chose. La beauté, elle est partout. Donc, il faut savoir aussi la percevoir. Et quand vous parlez de ces sculptures de Troie qui sont parfaites et d'une perfection, je dirais, représentative au niveau des détails, au niveau des costumes et des attitudes, il y a au-delà de ça, effectivement, une autre façon de les regarder, c'est ce qu'elles nous apportent, c'est ce qu'elles nous donnent, donc ce rayonnement. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est important en sculpture, c'est-à-dire le rayonnement, donc comment une sculpture exprime quelque chose qui va être peut-être difficile à saisir et à traduire par des mots, mais qui nous font rentrer dans la grâce d'une sculpture. Et les plus grands sculpteurs, ça a été ça. Je pense que ce soit les grands sculpteurs de la Renaissance, enfin chez nous, notre Renaissance française avec Goujon, et puis après on a des grands sculpteurs au 17e, au 18e.
Bah, Germain Pilon,
bien évidemment. Mmh. Et puis alors après, y a toute la grande école de sculpture française avec les Coisevox. Et puis on arrive au 18e, c'est Pajou. Et puis ça ne cesse pas. C'est extraordinaire. Donc il y a cette beauté et elle est toujours différente. Et elle est toujours perceptible. Et chez vous aussi, il y a cette beauté de ces personnages qui ont une assise extrêmement noble. Moi, c'est ce qui me frappe quand même. Cet enracinement de votre sculpture, justement, dans la terre, et cette élévation. Alors, on revient à l'idée de l'homme qui marche, qui est droit, qui est debout. Et donc, cette continuité d'une sculpture qui ne s'arrête jamais.
Moi, je crois à la convergence des choses. Je crois que les choses convergent. La réalité, le sens de la réalité, la signification des événements que l'on côtoie ou qui nous arrivent, c'est justement ce pouvoir de convergence qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils ont l'air d'être lointains les uns des autres, mais en réalité, ils ont l'air d'être extrêmement divers et variés. Et pourtant, le sentiment que j'ai à leur égard, c'est qu'ils sont tous orientés vers une espèce de point, de lointain, mais qui les réunit. Un petit peu comme précisément quand on fait l'effet de la perspective. La perspective, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire, les lignes qui sont autour de nous ont l'air d'être en désordre, comme ça. Et puis pourtant, si elles se prolongeaient, on s'apercevrait qu'elles se rejoignent, qu'elles se joignent, et elles ne se joignent pas n'importe où, elles se joignent à l'horizon. Et donc ça, c'est significatif, à mon sens. Et je pense que l'idée de la colline, l'idée de la montagne, qui est quand même assez présente dans mon travail.
Oui, qui habite vraiment votre travail. Vos sculptures partent de là.
C'est ce sentiment de convergence. C'est-à-dire, dès qu'on commence à quitter l'appui, qu'on est un petit peu au-delà de l'appui média que l'on a sur le sol, cet appui qui nous lie, qui nous tient, puisqu'on est tenu comme ça par la force de gravité, par notre poids. On pèse sur le monde. On a un poids. Je ne sais pas si on pèse sur le monde ou si le monde pèse sur nous. Mais enfin, il y a un poids. Il y a une sensation très forte. Et puis, petit à petit, on s'en soulage. Je dirais, on est de la respiration. On est de la... Petit à petit, le corps arrive à quelque chose qui est de l'ordre du souffle, de la respiration, d'un échange comme ça rapide, d'un échange déjà éthéré, immatériel. Et puis après, c'est la pensée, c'est l'esprit. On peut tout attacher. L'esprit est d'une totale liberté. Il a une indépendance. Il peut aller. Il y avait une chose. Vous vous rappelez quand nous sommes allés en Chine, il y avait un moment extrêmement touchant en Chine qu'on a vécu. C'est les Chinois qui honorent la lune et qui nous ont dit pour nous la lune, quand on pense à l'être aimé, on le pense à travers la lune, parce que la lune, je la vois, et l'être aimé, même s'il est très loin, même s'il est par-delà les montagnes et dans un autre pays, il peut voir la lune aussi. Et nous avons quelque chose qui nous réunit, c'est la lune. Et je trouve ça, c'est émouvant.
J'avais oublié en effet, parce qu'on s'est trouvé d'être, lors de ce voyage, un soir de pleine lune.
Absolument.
C'est là où les Chinois nous ont parlé de la lune, effectivement. Oui. Alors moi, je voudrais revenir justement à vos sculptures, qui, je l'ai dit tout à l'heure, ont une assise et sont quand même assez hiératiques. Et alors, j'ai beaucoup aimé quand vous avez évoqué là récemment cette idée des lignes. C'est comme si elles tiraient des lignes qui sont invisibles pour nous, mais qui dessinent un schéma, une sorte de réseau qui installerait donc une autre métonymie, finalement, spatiale. Donc, elles ne sont pas du tout elles ne sont pas isolées, mais elles construisent aussi elles-mêmes quelque chose, alors qu'elles sont elles sont immobiles, et en même temps, elles commencent à tracer quelque chose qui va se construire et qui invite justement, encore une fois, et on revient à cette idée du chemin, du cheminement, de la marche, et qui nous fait avancer.
Ah ben, y a une chose qui a été très importante pour moi, ce sont les études d'architecture, où on travaille des lignes, on travaille des choses précises, on travaille des poids, on travaille des lumières, on travaille des pensées, et c'est un art qui s'acquiert avec une grande rigueur et un sens des responsabilités. L'architecte, et le sculpteur, le peintre peuvent faire un mauvais tableau, une mauvaise sculpture, la conséquence, ils en subiront la conséquence de manière personnelle, mais
eux,
ça ne touchera pas les autres. Mmh. L'architecte, ce qu'il fait, va avoir des conséquences sur les autres. C'est extrêmement grave. Et donc, son geste prend une gravité, une force en même temps très particulière. Même si son geste peut être très simple, malgré tout, il est un geste qui s'adresse et qui va être employé et utilisé par le collectif. Donc c'est... Bon, c'est, pour moi, c'est vrai que c'était un, j'ai failli être architecte. C'était quelque chose d'extraordinaire. Bon, mais la sculpture, c'est... Nous sommes dans la sculpture, nous sommes dans le domaine de l'affectif. Mmh. Pour moi, la beauté a quelque chose de profondément lié à l'affectif. On ne peut pas s'en passer de ça, on ne peut pas exclure. Et pourtant, je dirais que, pour reparler des architectes, mais aussi des gestionnaires de notre monde, de notre société, il n'y a pas de budget pour l'affectif. Mais ça ne se mesure pas, ça ne se... Et c'est pour ça qu'il faut absolument que cette dimension de... Alors si on rapporte la beauté à l'affectif, on s'aperçoit que la beauté, elle est indispensable et qu'elle n'est pas si discutable que ça. Elle est un rapport amoureux avec la réalité. Mmh. On ne peut pas concevoir d'exister, de vivre ou de survivre sans ce rapport amoureux. Je crois. On le sait vis-à-vis de l'enfant. On le sait quand on a un enfant, on le comprend instantanément. Mmh. L'enfant paraît, je dirais, et on se rend compte à quel point l'affectif, on est envahi d'affectif. À quel point il est brutal, cet affectif. À quel point il est tyrannique. Et fondamentalement important. Heureusement qu'il est là. Parce que l'enfant serait en grand danger s'il n'y avait pas cet affectif. Mais en réalité, cet affectif, non seulement il est important là, mais il est important précisément, je crois, dans l'œuvre d'art.
Dans la création, essentielle.
Dans la création.
Absolument.
Dans la création, dans la
Sinon,
vie.
Sinon, c'est dévitalisé, il n'y a plus, plus de vie et il n'y a plus d'humain. Mmh. Donc, on revient à ce que l'on évoquait tout à l'heure. J'aimerais bien que, pour terminer cette émission, que vous lisiez encore un poème, peut-être, d'un poète qui a été proche de vous, qui l'est toujours peut-être, d'ailleurs, je ne sais pas quel est le poète que vous avez choisi, parce qu'il y en a quelques-uns. Alors
là, j'ai choisi Joël Bastard. Et Lydia, vous avez tout à fait raison, c'est un homme, nous sommes très proches. Là, nous sommes liés véritablement, affectivement. Et j'ai énormément de plaisir à lire sa poésie et de la lire ici, maintenant.
Et là, il y a de l'affectif aussi, parce que c'est vrai que quand on aime un poète et qu'on aime la poésie et qu'on a ce plaisir de lire à haute voix, parce que c'est très différent de lire un poème à l'intérieur de soi, dans le silence, et au contraire de lire le poème...
C'est-à-dire que
avec des résonances, on entend sa voix.
Quand je le lis, j'ai l'impression d'être concerné.
C'est magnifique.
Ne serait-ce qu'un pas vers soi, sous la chapelure des éléments du jour, un pas vers soi, en laissant de côté les caresses infirmières. Un pied en dedans, ça demeure. Qui pour un temps demeure, ne serait-ce qu'un coup d'œil sur son immensité, une courte station dans ce souffle qui nous unit, nous traverse, dans ce souffle qui ne nous connaît pas. Je m'éloigne, car pour dire, il faut être lointain, près de l'homme qui danse à l'horizon, qui nous attire de ses pas de zig-zig, dans ses pas un mélange d'espace et de muscles, sur son dos, la voûte céleste, grotesque coquille de colimaçon géant, qui n'en finit pas de spiraler. Je m'éloigne de ce que je ne sais pas, car pour dire, il faut être au-delà de son souffle.
Mmh. Magnifique.
Bon, je pourrais lire comme ça.
Ce sont des poèmes très courts.
Ce sont des poèmes assez courts. Là, le recueil s'appelle « Se dessine déjà ». Et je vois qu'il y a une dédicace de Joël qui date du 21 octobre 2012. J'avais invité Joël et Éric Coisel, donc c'est cette personne avec qui je travaille très fréquemment.
Oui.
Cet homme qui nous unit à venir travailler à Givrenne, donc dans mon atelier, mais aussi dans la plaine en quelque sorte. Et c'est vrai que ces jours-là, il a fait magnifiquement beau. Éric Coisel avait fait des photos des alentours de Chailly-en-Bière, de tout ça. On avait été ensemble d'ailleurs photographier des lieux comme ça. Et il voulait qu'on réunisse sur des mêmes ouvrages, dans des mêmes ouvrages, le dessin, la photo et le texte de Joël Bastard. Donc Joël écrivait, il avait une petite table dans un angle du jardin, il écrivait là. Moi, dans l'atelier, j'avais installé des grandes tables et...
Pour dessiner.
Et donc, c'était comme une chaîne industrielle. Il y avait Éric Coisel qui collait les photos sur ses feuilles de papier, qui façonnait l'ouvrage. Et puis, il me passait les pages. Je dessinais. Et ensuite, ces pages étaient données à Joël Bastard qui écrivait sa poésie. Et c'était dans le... alors là, c'était une chaîne, mais c'était aussi c'était quelque chose d'extrêmement lié. Hein. Une chaîne, c'est un lien. Et c'est vrai que c'était absolument formidable. On a passé 2-3 jours comme ça à faire ça. C'est des moments splendides, vraiment éblouissants.
Croisement des regards, croisement et partage de l'esprit. Et donc là aussi, on revient à cette relation amoureuse finalement qui fait que les choses se construisent, s'imbriquent, se répondent. Et ça, c'est extraordinaire. Et le temps disparaît, si je puis dire. Et on est comme dans un temps suspendu, qui est un temps qui nous échappe, mais qui est grisant, parce que peut-être que là, on est peut-être à quelques doigts de découvrir quelque chose d'exceptionnel.
On est sans cesse dans des intervalles. La création se fait comme ça.
Par
étapes, par à-coups, qui précise quelque chose. Quelque chose se précise, mais... quand on trouve des compagnons pour nouer ces étapes pour donner plus encore de sens à tout ça, c'est vrai que c'est formidable. Oui.
Et ça vous noue encore davantage.
Oui.
Ça vous enrichit.
Ça. Moi, j'ai été extrêmement aidé par Éric Coisel. J'ai été très aidé par Joël Bastard, par d'autres comme René Quinon, comme Henri Messionnic. Mais Henri Messionnic, nous avons travaillé à distance, en quelque sorte, par Salas Tétier, l'exigence, par exemple, de Salas Tétier, m'obligeait, en quelque sorte, j'étais tenu de répondre à sa rigueur, à son exigence. Je savais que quand j'irai porter, parce que très souvent Éric Coisel, n'ayant pas le temps, me disait va porter les ouvrages à Salas Tétier. Salas Tétier, c'est pas un homme commode, hein, c'est un homme d'une rigueur impitoyable. Et quand il parle, quand il s'exprime, avec une espèce de lenteur, mais où il laisse pas en placer une, parce que précisément, il faut toujours que l'idée se suive et se tienne, ne s'égare pas. C'est un homme d'une concentration formidable. On revient avec cette idée de convergence.
Oui. Alors j'espère que cette convergence, nos auditeurs vont l'apercevoir. Merci, cher Jean Guéra, pour ces échanges, cet entretien qui a été tout en circulation et qui a mis, en lumière, on revient à ces termes qui correspondent tellement à la sculpture, c'est-à-dire la lumière, l'espace, la présence, l'esprit aussi, et puis cette attente sur le seuil qui est plein de... qui pour nous est plein de bons augures. Alors je rappelle que votre exposition est à Tarbes jusqu'au 1er septembre et dans un lieu donc qui s'appelle le Carmel. Et c'est 14 rue Théophile Gautier. Voilà. Merci, Jean.
Merci beaucoup, Lydia. Thank you.
Thank you.